1988, qui va remporter la médaille du comice? C'est le débat Mitterrand-Chirac.
Il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
Mitterrand-Chirac, le débat du 28 avril 1988.
Face au peuple souverain, messieurs Jacques Chirac et François Mitterrand mettent la dernière main à leurs arguments.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Il faut d'abord remercier Europe 1, l'Europe 1 d'autrefois, d'avoir introduit en France le débat politique en face à face, que la télévision ensuite a imité à armes égales et appliqué depuis 1974 à la présidentielle. Les candidats ont tendance à croire que le débat peut provoquer des déplacements de voix. VGE assure qu'avec sa trouvaille de 1974 sur le monopole du cœur, il en a gagné 500 000. Les spécialistes en doutent. Les choix seraient déjà creusés en profondeur et le surlendemain, les électeurs, même s'ils ont vacillé, ont retrouvé leur lit. En réalité, le débat n'a pas pour fonction première la désignation du candidat. C'est devenu un rite extrêmement attendu, suivi lors de ses meilleures éditions par la moitié des électeurs. À cet égard, le débat de 1988 est très significatif. L'élection semblait déjà pliée dès le premier tour. François Mitterrand avait obtenu 34% des voix, score très important. Président sortant qui aurait pu être lessivé par les avanies, il s'était confortablement installé dans le rôle du président arbitre. Il disposait d'une réserve de suffrage à sa gauche, la Joanie, Juquin. Tandis que Jacques Chirac, qui avait à peine rassemblé 20% des voix, pouvait espérer celle de Raymond Barre, mais plus difficilement celle de Jean-Marie Le Pen, 15% déjà, qui appelait à le battre. L'importance du débat télévisé du 28 avril était donc toute relative. Et pourtant, il fut d'une rare intensité. Les deux personnages qui se faisaient face, l'un le président, l'autre son premier ministre imposé par les législatives de 1986, avaient cohabité 2 ans durant. Ils avaient maintes fois fait semblant d'être complices, par exemple, lors de leur conférence de presse commune où l'un finissait souvent les phrases de l'autre. Et soudain, leur haine, c'est sans doute le mot qui convient, apparut. Le climat de la soirée était à couper au couteau. Ce fut une confrontation électrique. Elle a beaucoup marqué l'imaginaire français, au bistrot, autour des machines à café, jusque dans les cours de récréation, aujourd'hui encore au théâtre. Avec Jacques Weber et François Morel, on a joué et rejoué le débat de 1988. C'est la première utilité des débats télévisés. Nous unir dans une dispute commune dont on se souvienne, du moins jusqu'ici.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Qui dit rite, dit desservant. En 1988, le réalisateur de l'émission, Jean-Luc Léridon, qui disposera de 8 caméras, est flanqué de 2 censeurs qui le surveillent et se surveillent. Ce sont les 2 conseillers images des candidats, des professionnels. Alexandre Tarta, chez Jacques Chirac, l'homme de question à domicile, et chez François Mitterrand, Serge Moati, qui se souvient.
Les deux hommes se voyaient avant le Conseil des ministres chaque mercredi, etc. Et la presse plutôt racontait que Mitterrand en imposait à Chirac, qui le tenait dans les yeux, comme ça, etc. Et j'étais allé le voir à l'Élysée, et je lui ai dit, à quelle distance il se met, Chirac, en face de vous? Et je bouge ma chaise. Il me dit là. Alors je sors un décamètre, enfin, truc. Et là, vous le sentez bien dans votre regard? Oui, très exactement. C'est exactement là, il se tient. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce qu'il paraît que vous le sentez bien dans ces là. Mais oui, il me dit, là, c'est comme ça que je le vois. Très bien. Et ben, on essaiera qu'il soit, je m'engage, à ce qu'il soit exactement à ce nombre de centimètres près.
Au centre de l'écran, il y aura 2 journalistes. Les candidats exigent généralement qu'ils ne servent à rien. Néanmoins, ils écartent les noms qui ne leur conviennent pas. Pour François Mitterrand, celui de PPDA. Pour Jacques Chirac, celui d'Alain Duhamel. À l'intérieur des chaînes, les journalistes seraient prêts à en venir aux mains pour jouer le rôle de chronomètre. Michel Cotta est désigné en 1988 en tant que directrice de l'information de TF1 avec son symétrique à Antenne 2, Élie Vanier. La parité est donc observée. Elle est établie dès 1974 sans le dire. Aujourd'hui, en 2017, elle est proclamée. Il a fallu en conséquence descendre jusqu'au rang de chef du service politique pour trouver un homme et une femme. Mais revenons à 1988. Élie Vanier.
On leur a dit, messieurs, il faut tirer au sort pour savoir qui commence. Alors, quelqu'un a sorti une pièce de sa poche et a tendu la pièce à Michel Cotta. Michel a dit, non, moi je ne tire pas au sort. Alors on m'a tendu la pièce, j'ai dit, non, moi non plus. Alors il y avait là une jeune femme, responsable de production, qui était sur le plateau, et on lui a donné la pièce en disant, c'est vous qui tirez au sort. Alors elle a hésité un moment et elle a dit, pile, c'est Monsieur Chirac qui commence. Elle a lancé la pièce en l'air, elle est retombée sur la table, et elle a regardé la pièce, elle l'a retournée, et elle a dit, mais je sais pas ce que c'est. Alors Jacques Chirac a pris la pièce, il a regardé, il a retourné, il a dit, avec ces pièces modernes, on sait jamais ce qui est pile et ce qui est passe.
Il y a l'ordre de passage, mais aussi l'ordre d'entrée. Mitterrand et Chirac souhaitent évidemment l'un et l'autre ne pas avoir à se serrer la main. Mais suite à une erreur d'aiguillage, sans doute, les portes s'ouvrent en même temps, sur l'un et sur l'autre. Ils sont bien obligés de se saluer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, tout le débat est déjà là.
Salut à tous, l'heure du grand dégât est enfin arrivée. Je vous rappelle les règles qui sont strictes et incontournables. Vous devez respecter scrupuleusement votre temps de parole, l'un comme l'autre.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Monsieur Blackjack, vous avez déjà 2 secondes de retard. Le débat sera divisé en 4 parties, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième.
Voilà. Oui, eh ben, commençons par la quatrième. Ce sera plus vite fini, hein?
Voilà, dans la restitution de ce débat, comme au bébé de show, nous aussi, nous jouerons un peu avec l'ordre des interventions. C'est dans le premier round d'observation qu'un premier accrochage se produit. Mitterrand s'est toujours plus à critiquer l'État UNR, puis l'État RPR. Il amène donc le thème de l'État impartial. Les nominations à la tête des médias publics, pilotées par son premier ministre de cohabitation, lui ont déplu. Jacques Chirac avait remplacé en effet la haute autorité qu'il avait créée par une CNCL plus proche de lui. Or, c'est Michel Cotta, l'arbitre, qui était présidente de la haute autorité. Le fait que son nom soit évoqué sans qu'elle puisse intervenir la met dans une position embarrassante qu'elle tente d'exprimer par des protestations étouffées.
Politiquement, j'estime que l'État RPR est un grand danger. Il est ressenti par beaucoup d'autres que par moi, c'est l'accaparement de l'État, et je pourrais le démontrer. C'est une petite incursion sur l'information.
Vraiment le démontrer.
C'était vraiment extraordinaire d'entendre cette démonstration sur l'information. C'est insupportable.
Avec quel...
Alors, je voudrais dire un mot quand même. Une phrase. Parce que je trouve que il y a tout de même une certaine audace à parler des médias. Monsieur Mitterrand, en 80, tous les dirigeants de chaîne ont été changés par vous, pas par moi. Quand la haute autorité a été créée, je ne voudrais pas demander le témoignage de Madame Cotta, un dirigeant que celle-ci voulait nommer a été interdit par l'Élysée. Toute la presse en a fait état, personne ne l'a contesté.
Sauf Madame Cotta.
Nous, en 1900...
Sauf Madame Cotta, ici présente, qui l'a écrit dans un ouvrage en disant que l'Élysée n'avait fait aucune pression.
Nous,
Madame...
Monsieur Michel...
Je souhaiterais être en dehors...
Nous vous y laissons. Nous n'avons changé personne en 86, personne. Lorsque, quelques semaines avant les élections de 86, dont vous avez bien vu que vous alliez les perdre, que le peuple français vous désavouerait, vous vous êtes caché dans un petit coin pour négocier avec vos amis l'attribution sans aucun appel d'offres de la 5 et de la 6. Pensez-vous que ce soit véritablement l'État impartial?
Je vous ai observé pendant 2 ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple. Moi, je continue à vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez... Et c'est bien juste de le dire, de très réelle qualité, vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Tu
l'avoir, tu vas l'avoir, il est cuit, laisse-le s'essouffler.
Écoutez, je vais le pulvériser, je vais l'atomiser, je vais le fracasser, je vais le pasteuriser.
Tu n'as rien à craindre, divine clarté, tu connais toutes ses faiblesses.
Je vais le casser, je vais le bouffer, je vais lui faire payer 2 ans de conseil des ministres.
Méfie-toi quand même, il est vicieux. Rappelle-toi comment il a mis KO Giscard au match revanche en 81. Travaille ta droite.
Écoutez, ma droite, ça va. C'est mon extrême droite que je maîtrise mal.
L'extrême droite, oui, la vraie surprise de cette élection de 1988 est venue de Jean-Marie Le Pen qui rassemble maintenant plus de 15% des suffrages.
Ceci étant, aucun d'entre vous ne peut être élu sans une partie plus ou moins importante de l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'attirer? Et l'attirerez-vous, cette partie de cet électorat, Monsieur Mitterrand?
Moi, je n'ai rien à faire. Je défends les idées que j'ai toujours affirmées. Je ne m'adresse absolument pas à un parti politique particulier, notamment pas celui-là, dont les idées et les projets sont aux antipodes des miens, dans les domaines que je connais. Et je n'ai donc aucune raison de faire un appel particulier à ce public. Chacun, chacune se reconnaîtra à sa guise. Les électeurs sont libres de s'exprimer.
Monsieur Girard.
Nous ne trompons pas de République, n'est-ce pas? L'élection présidentielle, et c'est pour ça que le général de Gaulle avait voulu cette élection au suffrage universel, signifie un dialogue direct entre les électeurs et le président, ou le candidat plus exactement. Ce dialogue est engagé. Il ne s'agit pas, naturellement, pour moi, de classer les électeurs dans telle ou telle catégorie de droite, de gauche, du centre, etc. Moi, je m'adresse aussi, cela va de soi, à tous les électeurs, et je respecte, par définition, parce que je suis un démocrate, tous les électeurs d'égale façon.
Le phénomène Front National s'explique par bien des raisons, et sans doute par un malaise profond de millions de gens qui se sentent malheureux ou angoissés ou anxieux. Bon, mais il me semble que ce qu'il faut récuser, c'est l'idéologie et le programme politique d'un parti comme celui-ci. Il ne faut pas être complaisant. Et j'espère, je n'ai pas toujours eu ce sentiment, que Monsieur le Premier ministre ne sera pas complaisant. Quant à ceux qui y adhèrent, c'est une autre affaire. Je crois qu'il faut surtout entendre et comprendre la demande sociale qu'ils expriment. Il ne faut pas être sourd. Naturellement, si on est sourd aux problèmes fondamentaux de la vie quotidienne dans la ville, des inégalités sociales, alors on encourage ce mouvement. Donc je crois qu'il faut être très ferme sur les principes, très ouvert sur la demande, mais il ne faut pas faire de concessions à la démarche de ce parti.
Il n'est pas dans l'esprit de nos institutions, dans une campagne présidentielle, de faire la moindre concession à quelque parti que ce soit, ni d'ailleurs à quelque idéologie que ce soit. Il faut simplement essayer de comprendre des hommes et des femmes, d'où qu'ils soient. Toutes celles et tous ceux, notamment, qui ont voté à droite ou à gauche pour d'autres candidats que ceux qui avaient exercé ou qui exerçaient les responsabilités du pouvoir. Pourquoi sont-ils là et si nombreux? Les uns, je dirais plutôt à droite, encore que ces divisions sont un peu arbitraires, parce que c'est développé, Monsieur Mitterrand, sous votre quinquennat actif, si j'ose dire, c'est-à-dire de 81 à 85, un certain nombre de phénomènes qui ont été insupportables pour beaucoup de nos concitoyens. Ça a été vrai avec le développement du chômage, au-delà encore du niveau élevé qu'il avait atteint avant, et surtout d'un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ont créé cette nouvelle pauvreté, cette misère qui a été très mal ressentie. À juste titre, naturellement, et que nous voulons tous combattre. Ça a été ensuite une politique à l'égard de l'immigration, et notamment une complaisance à l'égard de l'immigration clandestine, qui ont beaucoup choqué un certain nombre de nos concitoyens et créé des problèmes de comportement et C'est ainsi qu'on a vu se développer des sentiments que vous, comme moi, récusons par ailleurs. Et enfin, c'était un problème lié au développement de l'insécurité. Savez-vous, Monsieur Mitterrand, que les statistiques officielles montrent que de 1981 à 1986, il y a eu 600 crimes et délits de plus par jour. C'est exactement le chiffre que l'on décompte en moins pour ces crimes et délits de 86 à 88. Donc ce sont ces phénomènes qui ont créé cette espèce de réaction. Vous êtes à l'origine de ces phénomènes.
Bon, Jacques Chirac n'a pas complètement tort de suggérer que François Mitterrand a longtemps considéré l'émergence du Front National comme une aubaine pour la gauche. On sait même qu'il lui est arrivé de la favoriser. Le RPR déteste en effet être flanqué de quelqu'un à sa droite. Jacques Chirac, ce soir-là, exprime donc une position très dure contre l'immigration. En ce qui concerne l'immigration tout court, il faut la stopper car nous n'avons plus les moyens de donner du travail à des étrangers. Et je continue de citer, s'agissant de l'immigration clandestine, il faut évidemment lutter contre elle avec beaucoup d'énergie et reconduire les intéressés à la frontière ou les expulser. Ils ont pris leur risque en venant chez nous de façon illégale. Ils sont le vivier naturel, non certes en raison de leur origine, mais parce que ce sont des marginaux et qu'ils se cachent. Ils sont le vivier naturel des délinquants, voire des criminels. Il faut les expulser. Un peu plus tard, se contredisant, Jacques Chirac regrettera que les deux débats sur l'immigration et la sécurité soient malheureusement mêlés. Mais en l'occurrence, c'est l'image du locuteur qui compte davantage que la cohérence des propos. À l'époque, le Front National n'a pas encore aussi précisément qu'aujourd'hui localisé le filon de l'anti-européisme et le duel sur l'Europe qui suit se contente de reprendre les vieilles formules un peu usées. Chirac se situe dans le sillage de l'Europe des nations selon le général de Gaulle. Mitterrand lui reproche de n'avoir jamais été européen. Pour Chirac, l'Europe est en même temps une voie possible de la libéralisation économique tous azimuts dont il est alors le chantre. L'Europe devrait incliner la France à davantage de privatisation encore et à un entraînement de la fiscalité vers le bas. Il critique l'intention de Mitterrand de rehausser l'impôt sur les grandes fortunes et voici qu'il enchaîne plus au ras du sol.
Mitterrand, je ne reconnais à personne, et non pas à vous, et pas plus à vous qu'à un autre, le droit de me donner des leçons dans le domaine de la justice fiscale. Qu'est-ce que vous aviez fait, vous ? J'ai la liste des impôts que vous avez augmentés, c'est impressionnant. En 1984, vous avez plus que doublé le taux de la TVA sur les aliments pour les chiens et les chats. Comme si ce n'était pas essentiellement un nombre considérable de personnes modestes et souvent seules qui ont des animaux de cette nature et qu'on a fait cette ponction injuste sur leurs revenus. Alors ne me parlez pas de justice sociale.
Ce n'est pas exact. Je ne peux pas vous répéter ce que j'avais entendu naguère. Vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime, moi aussi. Mais lorsque la TVA a été effectivement augmentée par le gouvernement Mauroy d'un point, en moyen, des 7 à 18,5, il y a eu baisse correspondante sur les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits de première nécessité pour les humains.
Ah, à propos de caniche, alors je ne suis pas du tout d'accord avec votre insinuation, hein ? Comme quoi j'aurais augmenté la TVA sur les aliments pour chiens et pour les poissons rouges. Alors,
écoutez, c'est la vérité, vous le savez. Vous m'avez fait de la peine. Songez aux vieilles personnes qui n'ont qu'un poisson rouge pour leur faire la conversation. Imaginez le chagrin de Lynn Renault, de Simone Veil, de Françoise Giroud.
Mais vous n'avez pas le monopole des poissons rouges, monsieur le premier rapace.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Et la suite qui devient de plus en plus tendue du débat du 28 avril 1988. À un moment, Jacques Chirac a dit « Vous me permettez de parler de l'actualité ?» Et Mitterrand lui a répondu « Oui, bien sûr, sans doute voulez-vous éviter le passé, quand il est lourd. » L'actualité de la Nouvelle-Calédonie est lourde. «
C'est toujours la tension en Nouvelle-Calédonie, à la veille des élections présidentielles et régionales. Après l'assassinat des trois gendarmes de la brigade d'Ouvéa, le quatrième est encore ce matin dans le coma. Une situation émaillée d'incidents en plusieurs points du territoire, notamment à Yengen, où les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser une manifestation à coups de grenades lacrymogènes. Des barrages ont été établis aussi sur les îles de Lifou et de Maré. La situation n'est pas saine, dit la gendarmerie Nouméa, qui a fait envoyer des renforts à Ouvéa. 160 gendarmes, dont une vingtaine d'hommes du GIGN venus de métropole, sont en route. Les 27 gendarmes enlevés par les indépendantistes et retenus en otage dans des grottes de la région d'Ouvéa seraient en bonne santé d'après le FLNKS.
Monsieur Mitterrand, lorsque vous avez pris le pouvoir en 1981, la Calédonie était totalement calme. Pour l'ensemble du territoire, il y avait un escadron et demi de gendarmerie pour assurer l'ordre. C'est tout. Pendant qu'il y a eu les gouvernements socialistes, nous avons eu l'exaspération. Nous avons eu 32 morts, des centaines de gens blessés, de maisons incendiées, de femmes violées. Voilà quel a été le résultat de votre politique. À partir de 86, le calme est revenu sur le territoire. Le peuple s'est exprimé par un référendum. Et personne n'en a contesté le bien fondé.
Il faut conclure sur la Nouvelle-Calédonie.
Et par hasard, comme par hasard, c'est à la veille de nos élections qu'une opération dont le FLNKS nous dit aujourd'hui qu'elle a été préparée de longue main, dont nous savons qu'elle a été préparée avec l'aide d'aides extérieures et probablement de complicité intérieure, que cette opération intervient. Eh bien, je vous dis, Monsieur Mitterrand, que les encouragements qui ont pu être donnés dans le passé à cette fraction terroriste et séparatiste, qui représente très peu de choses, sont là, sont responsables de cette situation. Je le répète, en 81, il n'y avait aucun problème calédonien.
Sur ce point,
je veux dire très rapidement,
et ensuite on continue.
Que la Nouvelle-Calédonie, en l'espace d'un siècle, a connu de nombreuses crises, dont certaines ont été plus tragiques encore que celles que nous vivons actuellement. Le problème s'est posé de telle sorte que sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, à deux reprises, les ministres responsables ont voulu transformer les structures de ce lointain territoire, en constatant ce que j'ai constaté, à savoir qu'on ne pouvait assurer l'harmonie dans l'injustice et l'oppression. Il faut que chacun là-bas se sente en sécurité. Il faut que la culture d'origine soit respectée. Il faut que les terres ne soient pas confisquées au bénéfice de quelques-uns. Il y a des fortunes immenses qui se sont bâties là-bas en face de la pauvreté. Cela a aiguisé les oppositions. Et la façon dont vous me disiez « l'ordre règne » me faisait penser à une phrase fameuse, mais il s'agissait de Varsovie, je m'arrête là.
Et le mot « terrorisme » a été prononcé. Les attentats du quartier latin et la rue de Rennes, en 1984-85, sont encore proches. C'est curieusement François Mitterrand qui amène sur le tapis des noms qui sont omis, ceux des membres d'Action Directe. Jacques Chirac doit s'en étonner. Pourquoi son adversaire lui ouvre-t-il pareil boulevard? Il va se faire un plaisir de critiquer le supposé laxisme présidentiel à leur égard.
Action Directe. Lorsque le procès récemment s'est déroulé, dans le box des accusés, il y avait 19 personnes. 15 d'entre elles avaient été arrêtées sous les gouvernements précédents. 4, et je m'en suis réjoui et j'ai félicité le ministre à l'époque, 4, ceux qui étaient les plus connus, l'ont été par la suite. 15 sur 19 avaient été arrêtés avant 1986. Et je n'ai jamais relâché de terroristes et je n'ai jamais gracié de terroristes. Tel n'a pas été le cas au cours des 10 dernières années. Bref, je suis d'une totale intransigeance dans ce domaine.
Oui, moi, je constate une chose. Lorsque vous avez été élu président de la République et lorsque vous avez formé votre gouvernement, vous parliez d'Action Directe, c'est pas moi qui ai évoqué, Rouillan et Ménigon étaient en prison. C'est un fait. Alors ensuite, ils en sont sortis, quelque temps après. Et vous me dites, je les ai pas graciés, je les ai pas amnistiés. Ben, alors, ils ont dû sortir par l'opération du Saint-Esprit. C'est possible. Mais c'est étrange. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous avons eu beaucoup de mal. Moi, quand mon gouvernement a été formé, ils étaient en liberté, hélas. Nous avons eu beaucoup de mal à les retrouver. Nous les avons retrouvés, nous les avons mis en prison. Hélas, entre-temps, ils avaient assassiné Georges Besse et le général Audran. C'est pas moi qui ai évoqué ça, mais c'est un fait. demander aux Français s'ils préfèrent avoir comme ministre de l'Intérieur Charles Pasqua ou Pierre Joxe. Vous serez probablement stupéfait du résultat.
Vous en êtes là, monsieur le Premier ministre.
Ah oui, oui.
C'est triste, et pour votre personne et pour votre fonction, que d'insinuations en quelques mots. Rouillan n'était pas encore l'assassin qu'il est devenu. Il était passible d'une peine inférieure aux 6 mois, prévue par l'amnistie qui a été votée par le Parlement. Il est devenu le terroriste assassin que plus tard, c'est indigne de vous de dire ces choses. Nathalie Ménigon a été libérée par une décision de justice. C'est indigne de vous de dire ces choses.
D'Action Directe, François Mitterrand, qui semble suivre un fil invisible, passe à un autre moment difficile qu'il a mal vécu et qu'il veut évoquer. Un interprète de l'ambassade d'Iran ayant statut diplomatique, Gorgi, avait été accusé d'être un cerveau des attentats de 1984-1985. Les autorités en étaient venues à organiser un blocus prolongé de l'ambassade d'Iran, à quoi avait répliqué un blocage de l'ambassade de France à Téhéran. Or, Gorgi put échapper à la nasse par un échange contre un diplomate français retenu par Téhéran.
L'histoire d'un échange pour une image du jour qui met fin à la guerre des ambassades, 4 mois et demi après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Un scénario bouclé en 24 heures. Hier soir, Waïd Gorgi se rend au palais de justice pour être entendu par le juge Boulouk sur les attentats perpétrés à Paris. Il ressort libre du cabinet du juge et part immédiatement pour l'aéroport du Bourget, direction Karachi. Karachi, où l'échange a eu lieu en début d'après-midi. Le diplomate français Paul Thory, retenu depuis plusieurs mois, est attendu ce soir à Paris. Paris, où l'ambassade iranienne a retrouvé son aspect habituel. Ce matin, les dernières barrières métalliques étaient levées, les systèmes de surveillance débranchés. Les forces de l'ordre ont plié bagages après 153 jours de siège. Le va-et-vient tranquille des occupants de l'ambassade symbolise ce retour à la normale.
Je suis obligé de dire que je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgi, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Voilà pourquoi je trouve indigne de vous l'ensemble de ces insinuations.
Monsieur Mitterrand, tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur, concentré. Et je voudrais simplement relever un point dont je ne sais pas s'il est digne ou indigne de vous. Je n'ai jamais levé le voile sur une seule conversation que j'ai pu avoir avec un président de la République dans l'exercice de mes fonctions. Jamais. Ni avec le général de Gaulle, ni avec Georges Pompidou, ni avec Valéry Giscard d'Estaing, ni avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire, monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgi, que nous avions les preuves que Gorgi était coupable de complicité ou d'action dans les actes précédents, alors que je vous ai toujours dit que cette affaire était du seul ressort du juge, que je n'arrivais pas à savoir, ce qui est normal compte tenu de la séparation des pouvoirs, ce qu'il y avait dans ce dossier, et que par conséquent il m'était impossible de dire si véritablement Gorgi était ou non impliqué dans ces affaires. Et le juge, en bout de course, a dit que non. Peu importe la chose, je regrette d'avoir à développer un élément de notre conversation, mais pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux?
Dans si les oui. yeux, je la conteste.
Michel Cotta observe que le débat était d'une grande liberté. Certes, et elle ajoute, nous avons un peu bouleversé en cours de route les choses, mais enfin je crois que c'était pour le plaisir des téléspectateurs, pour le nôtre en tout cas. L'introduction du mot plaisir peut paraître curieuse, elle est en réalité heureuse, le plaisir pour les électeurs, chacun chez soi, de faire nation dans le spectacle d'une dispute commune. Cette émission a été préparée par Nathan Gallo avec Éric Morin, Valérie Aïstaraï. Il est 14h, vous écoutez France Inter.